RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Notre invitée ce soir est Olivia Grégoire, députée La République en marche et porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Avant de parler politique, on va parler économie avec donc l'attractivité des pays européens. Et la France passe devant l'Allemagne. Elle l'a détrônée. Elle est deuxième, en deuxième position derrière les Anglais. Alors, notre pays est redevenu attractif pour les investisseurs étrangers. Est-ce que la France passe deuxième dans le fond parce qu'elle profite du manque d'attractivité des Anglais avec le Brexit et des Allemands qui manquent de main-d'œuvre, ou bien la France bénéficie de la politique économique amorcée d'abord par François Hollande avec le CICE et puis amplifiée par Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un peu une bonne nouvelle mais par défaut?
Alors, les bonnes nouvelles, vous m'autoriserez à dire qu'elles sont assez rares dans notre pays, notamment au plan macroéconomique, pour les souligner. Donc, je vais y revenir, mais pour répondre très directement, c'est un peu des deux, en général. Un peu des deux, c'est-à-dire que c'est à la fois, effectivement, la problématique anglaise, les inquiétudes liées au Brexit, mais aussi un léger ralentissement de l'économie allemande qui décroche un tout petit peu toutes les deux, ce qui, par construction, fait monter la France dans le top 5 de l'attractivité. Mais c'est aussi, voire surtout, 2 ans de travail acharné en matière de fiscalité du capital, comme on le dit. 2 ans que la majorité présidentielle fait des choix importants, prend des mesures importantes pour diminuer la pression fiscale, pour renforcer l'attractivité de nos entreprises.
Et l'assouplissement peut-être du code du travail ?
Tout est à l'origine, tout est lié à la fois au plan financier et au plan social. Bien évidemment, les ordonnances travail, premier geste extrêmement fort de cette majorité en 2017, avec Muriel Pénicaud qui montre déjà des résultats, mais aussi la courageuse transformation de l'impôt sur la fortune, mais aussi ce qu'on appelle la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique qui permet d'homogénéiser le taux d'impôt et qui permet aussi de donner des signaux à tous ces Français qui, pour certains, étaient partis à l'étranger et qui commencent à revenir. Un chiffre, parce que c'est important, c'est bien d'être dans le top 5, mais c'est quoi top 5? Ça veut dire qu'on a fait plus 85% par rapport à 2017 sur les investissements en matière de recherche et développement dans notre pays. Ça n'est pas rien, plus 85%. Ça démontre aussi qu'en termes de fiscalité sur la recherche, sur l'innovation, notamment avec la loi Pacte aussi, il y a des signaux encourageants.
Alors, des signaux encourageants, vous le disiez aussi, mais il y a aussi des points noirs, hein, et c'est pointé d'ailleurs par le FMI, des problèmes structurels, hein, c'est qui persistent, la dette qui est encore trop lourde, le chômage, mais le FMI encourage la France à poursuivre ses réformes. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, après l'épisode des Gilets jaunes, qui est encore fragile, hein, parce que ça pourrait se rallumer. Est-ce que la route est dégagée pour des nouvelles réformes de poids fortes qui seront entreprises?
Je ne sais pas si la route est dégagée, mais notre détermination, notre ambition à les mener, elle est intacte. Ce que dit le FMI, c'est exactement ça. Attention à la dette, et c'est aussi pour ça que de nombreux parlementaires de La République En Marche travaillent aujourd'hui sur la réduction de la dépense publique, et nous travaillons avec Olivier Dussopt notamment sur la question de la fonction publique pour alléger un certain nombre de coûts importants. Et je pense qu'il faut aussi rappeler qu'on a eu une année qui a été certes compliqué avec les Gilets jaunes, dont vous faites bien de rappeler que c'est une éruption qui, à chaque instant, peut revenir. Mais je remarque aussi qu'on a réussi à avoir des résultats dont nous parlions en matière d'attractivité sur l'année, malgré quand même des grèves très importantes à la SNCF.
Les Gilets jaunes n'ont pas pesé sur cette attractivité,
non,
ce qui paraît.
Ni même la réforme de la SNCF que nous avons réussi à mener durant cette année. Nous n'avons pas eu une année que pavée en 2018 de bonnes nouvelles, et on a eu pas mal de mouvements sociaux, on a eu pas mal de rejets de certaines réformes, et force est de constater que aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette notion de transformation, et on l'a vu aussi sur les européennes, on en reparlera peut-être, je crois que les Français, par rapport à il y a 20 ans, ont tous admis et accepté qu'il fallait, pour préserver notre modèle social, que ce soit sur les retraites, sur l'assurance chômage et sur de nombreux chantiers, les transformer si on voulait pouvoir garder notre modèle solidaire. Je crois que ce diagnostic qui, en gros, en 2000, en 95, n'était pas passé, aujourd'hui est assez accepté. On sait que c'est parfois douloureux de transformer,
les retraites,
mais c'est nécessaire.
Les retraites, ça va être compliqué sur, donc, il y a 42 régimes, de faire un régime unique. Est-ce que ça va pas grincer, là encore? Est-ce que, là, du coup, la méthode, alors il y a un haut commissaire aux retraites qui est Jean-Paul Delevoye et qui se laisse pas faire par Emmanuel Macron, qui pouvait tenter à un moment il avait montré les dents, Jean-Paul Delevoye, sur l'allongement de la durée de cotisation. Est-ce que vous allez avoir les mains quand même libres pour faire vos réformes?
Je le redis, je pense qu'il y a peu ou pas, ça fait partie du charme du pays et de l'art d'être français, de réformes faciles dans notre pays. On l'a vu encore aujourd'hui, la réforme du règlement, qui est pourtant fondée sur le bon sens et portée par Richard Ferrand, n'est pas passée avec les applaudissements des opposition, c'est dommage, il n'y a aucune réforme qui passe facilement. Ce que je sais de la réforme des retraites, pour avoir entendu avec les parlementaires En Marche en réunion de groupe ce matin, Jean-Paul Delevoye, qui était notre invité, je peux vous dire qu'en matière de méthode et en matière de recherche du consensus et du compromis, c'est quand même quelqu'un d'assez exemplaire. Ouais.
Est-ce qu'il y a eu un problème de méthode quand même avant l'épisode des Gilets jaunes? Est-ce que vous reconnaissez, et d'ailleurs Emmanuel Macron a fait son mea culpa là-dessus, est-ce que vous faites attention maintenant à l'excès de confiance qui a pu habiter le président de la République pendant ces deux premières années?
Heureusement qu'on a tiré des leçons de ces épisodes qui ont, pour certains, samedi, en tout cas, était douloureux. Je crois qu'on a tous appris. Chacun, d'abord, à son petit niveau. Vous voyez, moi, je suis porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. J'ai appris que les réseaux sociaux, c'est très bien. Par exemple, que Twitter, c'est très bien. Mais que c'est pas forcément un médium, comme on dit, qui parle aux Français, aux gens. Tout le monde n'est pas sur Twitter. Donc, peut-être être moins sur Twitter et plus dans la presse régionale ou plus aux côtés des gens. Vous voyez, on apprend beaucoup de choses. Ce que j'ai appris aussi, et ce que nous avons appris, c'est... Peut-être on a eu une volonté de transformer vite et fort parce qu'on aime notre pays, parce qu'on est aussi plein d'ambition pour ce pays. Oui. Et parfois, on n'a peut-être pas assez écouté, nous l'avons entendu. Et la deuxième chose que je pense qui est en train d'évoluer sur la méthode vraiment profondément, c'est cette volonté que nous avions en 2017 sur certains textes de porter des majorités de projets. Je formule le vœu dans les prochains mois que nous parvenions, que ce soit avec certains membres de la gauche ou certains membres du Parti des Républicains, à pouvoir trouver sur certaines dispositions de textes des consensus. Je pense qu'il est important que ce ne soit pas toujours La République En Marche contre les autres et qu'il nous faut, sur cette disposition de loi qui arrive, trouver des consensus et des compromis et des majorités de projets dont parlait d'ailleurs Emmanuel Macron en 2017.
Alors, le Premier ministre fera mercredi prochain un discours de politique générale à l'Assemblée nationale. C'est donc pour marquer l'acte 2, le Macron 2. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce discours? Que va-t-il? Emmanuel Macron avait fixé le cap. Que va dire de plus, Édouard Philippe, est-ce qu'il va rentrer encore dans les détails, dans la tuyauterie, on va dire?
Alors, d'ailleurs, merci de poser cette question, parce que c'est vrai qu'à la dernière allocution, un échange avec les journalistes du président de la République, j'ai parfois été étonné des questions qui pouvaient lui être adressées en matière de précision. Si on relit quand même le rôle du président de la République et le partage des fonctions entre le président de la République et le Premier ministre, constitution de 58, le président donne le cap, donne le là, voilà. Le gouvernement met en œuvre et exécute, comme disaient certains. Je ne m'attends pas à un président qui est capable de me dire, pour le quatrième décile, comme on dit, quelle va être exactement la baisse d'impôt sur le revenu, alors même qu'il est en train de l'annoncer. Si vous voulez, j'étais étonné de certaines questions en termes de précision de certains de vos collègues. Je pense que c'est au gouvernement de dérouler maintenant et aux parlementaires d'enrichir, d'améliorer. J'attends donc une feuille de route. Le président a donné le cap et les élections européennes nous ont donné un signal qu'on ne peut pas ne pas entendre. Il y en a deux, des signaux. Plus de social.
Oui.
Plus d'accompagnement individuel social, donc on va travailler là-dessus. Et je pense qu'il y aura, avec notamment le revenu fusionné d'activités, des propositions fortes dans les prochaines semaines, avec la LOM aussi, plus de capacité à accompagner chacun dans les territoires. Il y a plus de social et il y a plus d'écologie. On a eu des difficultés.
Oui, ça a été les leçons des européennes.
Je veux aussi rappeler ici, sur votre plateau, si vous m'autorisez, que Moi, je fais partie de ceux au sein de La République En Marche qui pensent que nous n'avons vraiment pas rien fait en matière de transition écologique. On n'a certainement pas tout fait et on doit certainement en faire plus et de façon plus individualisée et plus claire. Ce que je remarque, c'est que les Français, quand on parle des accords de Paris, quand on parle de tous ces sujets un peu macro et conceptuels, ça leur parle pas. Quand on leur parle de changer sa voiture ou changer sa chaudière, ça, c'est des pratiques du quotidien qui leur parlent plus. Comment, nous, le gouvernement, on accompagne mieux dans le quotidien des individus cette transition qu'ils souhaitent.
Alors, les Européennes, vous le disiez, ont battu les cartes comme rarement. On n'est plus dans le clivage gauche-droite, ils sont à terre. Mais on est dans un affrontement, les progressistes contre les nationalistes. Et là, la REM contre le Rassemblement National, c'était ce qu'avait prévu Emmanuel Macron. Mais ce face-à-face n'est-il pas dangereux à terme? Avoir les populistes accéder comme ailleurs au pouvoir. Est-ce que ce face-à-face n'est pas dangereux? Ouais.
Alors déjà, ce face-à-face, c'est un état de fait.
Est-ce qu'il s'en réjouit, le président?
Mais c'est un état de fait. Il se réjouit du fait que le parti majoritaire qu'il représente a réussi à faire un score, on va dire, assez honorable dans des élections qui, en règle générale, à mi-mandat, sont peu ou prou perdues d'avance. Et je pense qu'il a raison de se satisfaire et de voir qu'En Marche est bien installée dans le paysage politique.
Oui, mais regardez, Obama a produit Trump, Renzi a produit Salvini. Et les populistes sont arrivés au pouvoir.
Oui. Bien sûr. Ouais. Étant historienne de formation, ça peut pas m'échapper. Moi, ce que je vois aussi, c'est que quand Salvini arrive au pouvoir, quand Trump arrive au pouvoir, nous, Français, on choisit Macron. Alors ça me donne, moi, de l'optimisme, et je crois que si nous parvenons à mener les transformations, mais pas des transformations, encore une fois, conceptuelles, les transformations qui viennent changer la vie quotidienne des Français, leur permettre de trouver du travail, améliorer l'avenir de leurs enfants, alors nous aurons une chance de combattre les nationalistes et les populistes. Mais, et vous le savez, vous êtes une analyste connue de la vie politique, on dirait que cet état de fait, c'est Emmanuel Macron qui, en mai 2017, l'a installé.
Non, mais c'est la réalité, puisque c'est ce qui se passe en Europe.
C'est ce qui se passe déjà depuis 20 ans, quasiment. Moi, en 2002,
20 ans, peut-être pas.
Mon engagement politique, aujourd'hui je suis députée, mais en 2002, j'étais allée manifester le 21 avril 2002, lorsque j'étais étudiante. Je vais à Marine Le Pen, le danger de Marine Le Pen, ça fait pas un an ou deux ans ou trois ans qu'on nous en parle.
C'est le père, là, à l'époque.
Et puis après-demain, vous savez quoi, ce sera certainement la nièce. Donc c'est malheureusement une réalité rémanente. Historiquement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des tensions, puisque effectivement le clivage gauche-droite n'est plus d'actualité. Non, c'est les progressistes contre les nationalistes.
Mais vous avez raison que depuis quelques années, l'invariant, c'est que le Front National est là. Ce qui change, c'est qu'il progresse. Mais bon, je voudrais qu'on parle de la droite. Donc aujourd'hui, La République En Marche, comme les sirènes devant Ulysse, appelle les maires de droite à venir rejoindre les rangs de la majorité en vue des municipales. Est-ce que c'est quand même pas, parce que ça a été un peu la grosse Bertha, hein. Il y a eu d'abord Agir qui a demandé ça, ensuite Sébastien Lecornu, un ministre, ensuite on va l'entendre Gilles Boyer. C'était un peu lourdingue. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est une forme de panique, parce que vous sentez bien aussi qu'il y a un manque d'implantation locale, parce que vous êtes un jeune parti.
Je vais pas réagir sur la grosse Bertha, je vous laisse vos commentaires, moi je commente plus. Je crois que c'est très réaliste. Je peux pas me réjouir, je vais pas dire de la débâcle, je vais dire peut-être de la dérive des Républicains. Je peux pas me réjouir de voir un parti de gouvernement, comme d'ailleurs l'a été le Parti Socialiste, s'effondrer dans les limbes qui sont les siennes. Je ne crois pas que les gens qui votent républicains fassent tous partie de la ligne qu'on a appelée Wauquiez, de cette droite un peu dite Trocadéro, un peu dure. Et je pense qu'il y a des centaines de milliers, pour pas dire plus, d'électeurs et d'élus qui sont aujourd'hui complètement perdus, qui sont de droite modérée, de droite libérale, de droite territoriale. Et je pense que ne pas leur adresser un signal serait une erreur. Et je pense que, après la façon dont ça a été fait, ok, chacun commande comme il veut, mais je pense qu'il est important d'appeler à nous des gens qui sont susceptibles d'être des progressistes, plutôt que de les laisser dans une forme d'état de déréliction, qui est la meilleure porte ouverte à ce qu'annonçait la jeune et néanmoins très dangereuse Marion Maréchal Le Pen dimanche soir sur les antennes, c'est-à-dire à ce fameux grand rassemblement. Alors, qui viendrait battre
justement,
la République
en justement, en dévitalisant la droite, une partie va venir peut-être, est déjà venue chez vous, hein, mais pour les municipales, viendront encore plus avec des bataillons en renfort. Elle peut aller aussi chez Marine Le Pen et faire grossir ses rangs et conquérir l'Élysée en 2022. Ça, c'est le premier scénario. L'autre scénario, c'est qu'il émerge par miracle une sorte de Deus ex machina à droite. Je parle de miracle parce qu'on n'y est pas, et une personnalité qui tienne la route pour 2022. Ça aussi, c'est deux risques qui sont pris.
Oui, mais moi, c'est pas des risques, c'est des scénarios, c'est des possibles. Oui. Et ce sont effectivement les possibles. Vous faites bien de rappeler qu'il y a des personnalités à droite qui peuvent aussi réémerger et se repositionner.
Il y en a avec Emmanuel Macron, auquel on s'attendait pas.
Oui, mais ça fait partie du charme d'Emmanuel Macron. On s'attend pas forcément à cette décision. Mais moi, je le pense sincèrement. Ce que je crois, c'est que il y a deux choses qui seront importantes, notamment dans les prochaines élections municipales. C'est que, vous savez, En Marche, c'est un parti progressiste, c'est la bannière du progrès. Et ce qui est important, c'est que on veut appeler à nous certains gens qui ne font pas de politique, qui sont dans la société civile, mais qui sont dans des think tanks, dans des organisations, dans des associations, certains qui peuvent être des anciens de la gauche, des anciens de la droite. Mais je siège au Burex, au bureau exécutif d'En Marche, et il y a quelque chose qu'on se dit souvent, et je veux le redire ici, c'est notre ADN. On nous demande pas, contrairement aux autres, d'où on vient. On nous demande où on veut aller ensemble et qu'est-ce qu'on veut faire pour les Français. Mmh. On nous demande pas de quel parti tu viens. On nous demande en réalité qu'est-ce que toi t'as envie de faire pour ton pays. Et nous, je pense qu'il faut qu'on reste très ouvert pour accepter des gens. Peu importe les horizons.
Oui, alors justement, vous faites vous faites de l'œil à la droite, mais pourquoi vous faites pas la même chose avec le Parti Socialiste, puisque en réalité, Emmanuel Macron, si je me trompe, a été élu sur le en même temps. Donc, il chasse à droite, pourquoi il chasse pas à gauche?
Oui, mais
pour muscler aussi sa jambe sociale, on va dire.
Déjà, la jambe sociale est aussi équilibrée à gauche qu'à droite, notamment au sein des parlementaires. Et puis, vous savez, c'est pas parce que un ministre...
Certains s'inquiètent dans vos rangs. Vous pouvez pas
plus
à gauche.
Le doute et l'inquiétude sont des choses saines et je ne connais pas de parti majoritaire qui ait plus de 300 membres qui n'ait pas eu ce type d'interrogation et je trouve ça plutôt sain de se poser la question ensemble à l'intérieur que d'éructer les uns contre les autres dans la presse. Donc parfois ça tiraille un peu, mais c'est plutôt bien de le faire en réunion de famille, en réunion de groupe et c'est plutôt signe d'une vitalité dans le groupe En Marche. Et à cette heure, au moment où je vous parle, ça ne m'inquiète pas. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'on se retrouve sur des majorités de projets dont je vous parlais, pour faire avancer le pays.
Merci beaucoup, Olivier Grégoire.
Merci,
c'est la fin de cette émission. Merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Nérand d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.
Appelez-nous